Nous allons pouvoir reprendre notre programme avec la communication de Seyfettin Gürsel, je vous rappelle donc, qui est économiste et qui va répondre à certaines des attentes du public, puisqu'il va parler du présent et du futur, même si, je le laisserai dire, mais enfin, je ne sais pas si le futur est très rose. Mais bon, on fait avec ce qu'on a, et il faudra donc parler de quelque chose de vraiment concret, puisque nous avons surtout parlé jusqu'ici d'idéologie, de symboles, d'histoire, tandis que là, c'est du concret. L'économie, comment est-ce que ça se passe? Et comme je vous le disais dans mon introduction, après tout, il n'y a pas de raison d'imaginer que les relations entre la Turquie et l'Europe ne doivent pas s'imaginer sur des bases rationnelles. Ce serait d'ailleurs souhaitable, puisque dans ce cas-là, on aurait une chance de voir les gouvernements œuvrer à la réalisation d'une relation fiable, stable, et qui promettent quelque chose pour l'avenir. Puisque, en général, l'irrationnel a tendance à soit amplifier l'enthousiasme sans vraiment permettre de réaliser les promesses de cet enthousiasme, ou alors de démolir carrément et de traverser de manière très négative, de contrarier les projets par des éléments affectifs et émotionnels qui vont à l'encontre du bon sens. Voilà. Donc, je cède la parole à Monsieur Seyfettin Gürsel, qui va nous parler de la Turquie et l'Union européenne, un tandem difficile mais inséparable.
Merci, Ethem. Bonjour. Juste quelques mots sur le titre. Difficile, je pense que c'est évident. On n'a pas besoin de revenir sur cet adjectif. Mais inséparable, c'est plutôt une opinion personnelle. C'est mon opinion. Et aussi, l'inséparabilité contient aussi un peu... du point de vue de cette affection et réalité, plutôt une affection, parce que je pense que cette inséparabilité n'est pas garantie, mais doit continuer à exister. Sinon, d'ailleurs, il n'y aura pas de tandem. Mais je dois avouer aussi que si j'avais, si c'était il y a 15 ans, j'étais ici en train de m'adresser sur le même thème, sur le même sujet, certainement j'aurais été beaucoup plus optimiste et ça aurait été un discours différent. Mais enfin, la réalité, on ne peut pas non plus la contourner. Alors, de quoi je vais parler ? Sur quatre choses essentiellement. Je vais d'abord faire une brève comparaison pour situer la Turquie vis-à-vis de l'Union européenne en ce qui concerne les indicateurs, les caractéristiques les plus significatives, ce sera rapide. Ensuite, la partie économique, les problèmes, les défis auxquels la Turquie fait face depuis un certain temps. En fait, certains problèmes ont toujours existé, avaient toujours existé, mais d'autres problèmes y sont ajoutés dans les dernières années. Ce sera un peu long, mais je tâcherai, je sais que la plupart d'entre vous probablement ne sont pas économistes, donc je tâcherai d'être aussi, disons, pointueux sur certains aspects les plus intéressants et les plus problématiques, je vais essayer de donner aussi des explications nécessaires, bien sûr, mais l'économie, en fait, la politique dans cette affaire est inséparable de l'économie. Bien sûr, nous allons voir ce que cette inséparabilité, c'est-à-dire sur le plan économique, les intérêts se convergent. Est-ce que on peut avoir des relations économiques gagnantes-gagnantes? Mais cela, évidemment, même si la réponse est oui, ça ne garantit pas que, du point de vue, les problèmes politiques sont secondaires et, en fait, souvent, les politiques et affectives peuvent aussi mettre en cause les intérêts mutuels économiques. Donc, le blocage insurmontable dans le processus d'adhésion, c'est, on va le voir, en fait, il n'est plus question d'adhésion, à mon avis, au moins dans un avenir prévisible. Pourquoi ? On va en parler un peu. Je vais en parler un peu. Et finalement, quelles alternatives peut-on concevoir dans un avenir prévisible ? Alors, avenir prévisible, il faut un peu le préciser, est-ce qu'il s'agit de 50 ans ou de 5 ans ? Évidemment, c'est à discuter. Je ne parlerai pas d'un avenir à 50 ans, ça on verra. Mais de toute façon, d'ici, dans les 10 années qui viennent, les choses peuvent être mieux, on peut avancer, non pas en ce qui concerne l'adhésion de la Turquie en tant que membre complet de l'Union européenne, mais on peut renforcer non seulement les relations économiques, mais aussi, bien sûr, peut-être grâce à ces relations renforcées, résoudre quelques problèmes internationaux, des problèmes politiques très importants aussi, mais ça dépendra, bien sûr, Ahmed va en parler, ça dépendra d'un changement de pouvoir, absolument, c'est une nécessité inévitable, un changement de pouvoir en Turquie. On va en parler aussi un petit peu, mais finalement, à la fin de la journée, lorsqu'on aura un débat général, on peut revenir sur ces questions, bien sûr. Ce regard comparatif, j'ai choisi quatre indicateurs caractéristiques significatifs, population, marché de travail, croissance économique et intégration économique. Alors, essayons de voir un par un. Ce tableau, je l'ai préparé, j'ai mis dans ce tableau, bien sûr, la Turquie, mais j'ai voulu la comparer seulement avec les grands pays de l'Europe, c'est-à-dire les grands pays, entre guillemets, les pays qui ont une taille de population importante. Donc, vous voyez ces pays, mais j'y ai ajouté, à la fin du tableau, quelques pays, deux pays plutôt, de l'Est de l'Europe, la Roumanie et la Bulgarie, je vais en parler, parce que ces pays, il ne faut pas oublier, qui sont les plus pauvres du point de vue de revenus par tête d'habitant, ce sont les pays qui possèdent le revenu par tête le plus bas en Europe. Et donc, j'ai voulu aussi les mettre en comparaison avec la Turquie. Alors, qu'est-ce que la première remarque, l'évidence, ce n'était pas le cas il y a bien sûr même 5 ans. Il y a 20 ans, ce n'était pas du tout le cas. Mais c'était absolument prévisible, étant donné les taux de croissance de la population, que la Turquie, dans un avenir non lointain, deviendra le pays le possédant la plus grande population de l'Europe. C'est déjà fait. En 2020, la Turquie est devenue un peu plus de population que l'Allemagne. La deuxième, bien sûr, remarque qu'il faut faire à partir de ce tableau, c'est que la Turquie, la population de la Turquie continue à augmenter, continue à croître. Les prévisions, il y a diverses prévisions pour l'avenir, mais très probablement, la population de la Turquie sera stabilisée un peu moins de 100 millions. En tout cas, on dépassera les 90 millions, c'est sûr et certain. C'est la deuxième remarque. Troisième remarque, la Turquie continue à croître, la population continue à croître, mais ce n'est pas le cas dans l'Europe. Je crois qu'il y a l'exception de l'Irlande, mais on perd l'Irlande. Comme vous voyez, les grands pays, l'Allemagne, zéro, pas de croissance. Espagne, c'est presque ça. Italie est en train de... La population est en train de décroître. La Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, vous voyez, c'est très négatif. La décroissance est très notable, la décroissance de la population, parce que, non pas seulement à cause des dynamiques démographiques, mais parce que c'est les citoyens de ces pays, après 2004, ont massivement émigré dans les autres pays, surtout les pays développés de l'Union européenne. Pourquoi j'en parle? Eh bien, même déjà, rappelez-vous les affiches du plombier polonais. Déjà, c'était assez inquiétant pour une certaine, pour certaines populations, pour certains gens en Europe vivant dans les pays européens. Surtout, je crois que c'était la Grande-Bretagne qui était le plus susceptible à propos des plombiers polonais qui émigraient. Mais il l'a digéré, finalement, assez facilement. Et parce que ce sont, sauf la Pologne, je crois qu'il y a 3,5 millions de Polonais qui ont émigré depuis. Dans le livre de Ivan Krastev, c'est un philosophe bulgare qui a écrit un livre très intéressant il y a quelques années, après l'Europe, parce qu'il pensait que de toute façon l'Europe, l'Union européenne, on n'en parlera plus dans l'avenir, parce que ce sera une déstabilisation et la fin de l'Union. Enfin, bref, d'après Ivan Krastev, 3,5 millions de Polonais, 2,5 millions de Roumains, et je ne sais pas le nombre de Bulgares, mais en tout cas 10%, je l'ai noté, 10% de la population de la Bulgarie ont émigré dans les autres pays de l'Europe. Pourquoi c'est important? Parce que d'abord, c'était des pays à revenus par tête très faibles, donc l'attirance des pays développés de l'Europe, des pays riches de l'Europe. Et alors la Turquie, regardez, revenu par tête d'habitant, c'est le plus bas, 7 510 euros, en 2020. La Turquie, en fait, était au niveau de la Bulgarie. On va en parler tout à l'heure. Mais depuis les deux dernières années, il y a eu une telle dépréciation du livre turc que, en termes de dollars, US dollars, le revenu par tête est même passé sous la barre du revenu bulgare, 8 750. Donc, le premier pays du point de vue de la population qui va vers les 90 millions, un pays aussi pauvre que la Bulgarie, imaginez que les 10% de sa population émigrent en Europe. Donc, déjà, vous voyez que certains problèmes de base commencent à se poser, et les Européens, surtout certains dirigeants qui étaient contre l'adhésion de la Turquie, le savaient et ils en parlaient. Et alors, le revenu par tête d'habitant est bien sûr un indicateur, mais c'est un indicateur insuffisant. Regardons du côté du marché de travail, le taux d'emploi... sans surprise, je pense pour vous, la Turquie, en fait, était au niveau à peu près d'Italie du point de vue taux d'emploi, mais j'ai mis les taux d'emploi des deux dernières années, 2019-2020, pour aussi vous montrer quel a été l'impact de la pandémie Covid-19 sur ce marché. Donc, c'est évident, la Turquie, le taux d'emploi en Turquie a baissé d'une façon très significative. Il y a une reprise maintenant, mais toujours est-il qu'en 2020, le taux d'emploi était le plus faible parmi les pays de ce tableau en Turquie. Alors, peut-être vous remarquez, juste toujours pour comparer avec les pays de l'Est, Pologne, Roumanie, Bulgarie, ils ont des taux d'emploi assez grands et des taux de chômage assez bas. C'est l'héritage socialiste, en fait. Les taux d'activité des femmes sont très élevés dans ces pays. Le chômage est beaucoup moins important. Alors qu'en Turquie, ce n'est pas le cas, sauf l'Espagne, c'est une exception, mais un peu l'Italie aussi. La Turquie a un taux de chômage assez élevé. Alors, si vous combinez tout ça, population, très grande population, en train de croître, un revenu par tête bas, donc pauvreté, et un taux de chômage élevé, donc déjà, bien sûr, c'est une menace pour la stabilité de l'Europe. Est-ce que l'Europe peut digérer si la Turquie continue toujours, par exemple, 20 ans après, si la Turquie est toujours aussi pauvre par rapport à l'Europe, évidemment, c'est un problème, à mon avis, insurmontable. Alors, est-ce que les choses peuvent changer du côté de la Turquie? Ça, on peut en débattre. Alors, taux de croissance, donc, est-ce que les choses peuvent changer? Et j'ai tout simplement résumé dans ce tableau les trois dernières, le moyen des quatre dernières années, 14, 15, 16, 17, et les quatre années plus récentes, 2018-2021. Alors, on n'a pas fini encore 2021, mais j'ai pris les estimations optimistes du gouvernement turc pour 2021, mais ce n'est pas exagéré, je dois le dire, et l'Union européenne pour 2021, c'est l'OCDE. Donc, ce sont des moyens. Alors, qu'est-ce que vous voyez? C'est très aussi frappant. La Turquie avait un espoir de forte croissance, en fait, grâce à la forte croissance économique, on aurait pu dire que l'écart entre les pays développés de l'Europe et la Turquie sera de moins en moins important. La Turquie va s'enrichir, le revenu par tête d'habitants va augmenter, le taux de chômage ne sera pas aussi élevé, donc le fardeau potentiel de la Turquie pour les pays européens sera de moins en moins, sera moindri avec le temps. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas. En tout cas, étant donné les quatre dernières années, y compris cette année. Vous voyez, 3,8%. Alors qu'en Europe, vous remarquez, déjà, la croissance économique est basse et c'est normal, c'est une économie développée. Il a des problèmes, bien sûr, mais 2%, 1,8%, c'est plutôt une stabilité et la théorie de la croissance économique le prédit de toute façon. Mais regardez la Turquie, presque de 6% passe au-dessous de 4%. Vous pouvez me dire que 3,8%, mais c'est pas mal non plus. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai pour une raison très simple, j'en reviendrai. Parce que tout à l'heure, nous avons parlé que la population de la Turquie continue à croître. Donc, chaque année, la population à l'âge de travailler augmente. À peu près chaque année, il y a 900 000, 1 million de jeunes qui passent de 14 ans à 15 ans. Donc, il faut trouver des emplois à ces nouveaux venus à l'âge de travail, et il faut un minimum de création d'emplois pour employer ces gens. Et ce minimum de création d'emplois nécessite un minimum de croissance économique. Je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer longuement pourquoi ça est ainsi. Et alors, on s'occupe de ça, moi particulièrement aussi avec mon centre de recherche. Les 10 dernières années nous montrent que, étant donné l'élasticité croissance-emploi, il faut au moins 4% de croissance économique pour maintenir le taux de chômage à ce niveau actuel qui est élevé. Alors, dans ce cas, bien sûr, vous voyez le défi pour aussi l'avenir. Pourquoi le taux de croissance est devenu si faible en Turquie? Parce que le gouvernement AKP a fait des erreurs monumentales. Tout à l'heure, on va voir quand on va regarder les problèmes économiques spécifiques. Alors, en ce qui concerne l'intégration économique, ça, ici, représente ces graphes le commerce extérieur entre la Turquie et l'Union européenne. Pourquoi je l'ai fait commencer en 1993? Parce que l'État n'en a pas, évidemment, ce n'était pas son but, n'a pas tellement parlé des différentes étapes du processus d'approche de la Turquie de l'Union européenne, mais probablement, vous savez, ou laissez-moi vous rappeler, en 1995, c'était une année, une étape très importante. Cette année-là, c'est la Turquie qui a voulu absolument, il a changé d'avis, parce que dans les années 60-70, tous les gouvernements de droite ou de gauche ont toujours dit que, enfin, surtout les gouvernements de gauche de M. Ecevit, que eux, ils sont l'Union, nous, nous sommes leur marché. Onlar ortak, biz pazar. Ortak pazar, parce qu'à cette époque, on appelait l'Union européenne le marché commun. Bon, mais ça, après, dans les années 1990, les avis ont changé et le gouvernement en place, c'était un gouvernement de coalition, il a absolument voulu signer un traité d'échange libre avec l'Union européenne, plus particulièrement de constituer une union douanière. Les Européens, ils ont hésité, etc., parce que la Turquie pensait que ce serait une étape dans l'adhésion, dans le processus d'adhésion. Parce que dans les années 1990, l'Europe n'avait pas encore allumé le feu vert pour la Turquie. Et, bon, je passe les détails, ceci a été signé en 1996. Et c'était un cas unique. Jamais dans l'élargissement de l'Union européenne, les pays candidats avaient passé par cette étape d'union douanière avant. Bon, c'était une exception faite à la Turquie. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous regardez 1993-1996. De toute façon, les exportations de la Turquie vers l'Union européenne, le bleu, était déjà en marche et cela n'a pas changé de rythme des exportations de Turquie. Évidemment, dans les années 2000, il y a eu une légère accélération, mais cela a d'autres raisons. 2008, c'est la grande récession dans le monde, comme vous savez, donc, mais après ça a continué. Alors, moi, ce tableau, en tant qu'économiste, quand je regarde ça, je me dis que l'union douanière, finalement, n'a pas créé d'une accélération, n'a pas causé une accélération particulière des exportations turques vers l'Union européenne. On peut dire aussi, s'il n'y avait pas eu l'union douanière, à mon avis, le même rythme d'augmentation des exportations aurait été observé. Et quant aux importations, le graphe rouge, c'est-à-dire ce que importe la Turquie de l'Union européenne, là, c'est plutôt autre chose. On voit que c'était dans l'intérêt de l'Union européenne parce que ces importations ont plus rapidement augmenté que les exportations et le déficit qui existait déjà au début des années 90 s'est élargi, le déficit extérieur en faveur de l'Union européenne s'est élargi. Alors, une dernière question à ce propos du commerce extérieur. Quelle est l'importance pour la Turquie de l'Europe et quelle est l'importance de la Turquie Quelle est l'importance de l'Europe pour la Turquie et quelle est l'importance de la Turquie pour l'Europe? Alors, ce sont les parts dans le commerce extérieur de la Turquie et de l'Union européenne. Alors, à gauche, vous pouvez voir la part de l'Union européenne dans les exportations de la Turquie et dans les importations. Qu'est-ce que vous remarquez? Déjà, à partir de la fin des années 90, d'abord, c'était de l'ordre de 50%. Donc, le marché européen est très important pour l'économie turque. Mais après 2000, ça commence à diminuer. Mais toujours important, puisque plus de 40%, finalement, la part de l'Union européenne dans le commerce extérieur de la Turquie. Bon, les détails, les causes ne nous intéressent pas, mais aussi, n'oubliez pas que la Turquie a besoin d'énergie, d'importer du pétrole, d'importer du gaz naturel, etc. Il y a eu une ouverture vers le Moyen-Orient, vers l'Asie, etc. Donc, c'était normal. Mais regardez l'Europe, en fait, c'est à droite. La part de la Turquie, du marché turc dans les exportations et les importations européennes, comme vous pouvez voir, évidemment, c'est une perte négligeable. Nous sommes à peu près aux environs de 4%, mais il y a une asymétrie évidente et ce n'est pas très surprenant parce que la Turquie n'est pas encore un pays économiquement très développé. Donc, à mon avis, la conclusion sera que la Turquie a moins besoin de l'Europe a moins besoin de la Turquie que la Turquie a besoin de l'Europe en matière de commerce extérieur. Alors, dernièrement, je voudrais jeter un coup d'œil. Toujours, nous parlons à propos de l'intégration économique, les investissements directs étrangers. Vous savez que c'est très important pour la croissance, en particulier d'un pays comme la Turquie, parce que tout à l'heure, dans les problèmes économiques, je vais vous montrer, la Turquie structurellement a besoin des capitaux étrangers pour avoir un taux de croissance élevé. Alors, c'est très remarquable, ça. Ce n'est pas comme le commerce extérieur. Regardez ce qui s'est passé. En 2003, presque négligeable, les flux de capitaux directs étrangers en Turquie, absolument négligeable. C'est de l'ordre de 2-3 milliards de dollars. Vous pouvez lire à gauche, sur l'axe à gauche, vertical. Et la part de l'Europe était déjà d'ailleurs importante, plus de 50%, les barres rouges, d'accord ? Ce sont les parts de l'Europe, la part de l'Europe dans les investissements directs étrangers. Alors, tout d'un coup, à partir de 2005, les investissements directs étrangers font un saut, mais un saut remarquable. Et il continue en 2006. Incroyable, de 2 milliards, 3 milliards de capitaux directs étrangers, d'investissements étrangers, on passe à près de 20 milliards de dollars par an. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous souvenez peut-être, mais sinon, je vais vous le rappeler. Parce qu'au Conseil européen de décembre 2004, le Conseil, finalement, a dit que la Turquie est candidat à l'adhésion. Et rien que cette annonce, et le 3 octobre 2005, la Turquie a commencé à, entre guillemets, négocier l'adhésion officiellement. Vous voyez l'impact sur le volume de l'investissement étranger, et surtout européen, parce que vous voyez, les investissements européens sont montés jusqu'à 80% presque dans l'ensemble des investissements directs étrangers. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Une dégringolade, et on va aussi en parler parce que la Turquie commença à s'éloigner de l'Europe, et l'Europe aussi, à vrai dire, n'a pas fait grand-chose, et parfois, il a aussi encouragé cet éloignement de la Turquie de l'Europe à cause des nombreux, difficultés qu'elle a inventées dans ce processus d'adhésion. On va les voir les plus importants. Ici, c'est un tableau, je passe. C'est pour vous donner une idée de quels sont, c'est le stock, évidemment, de l'investissement direct étranger. Dans ce stock, les Pays-Bas, l'Allemagne, Luxembourg, bon, Luxembourg, ça n'a pas d'importance, ils cachent les autres firmes appartenant à d'autres pays, mais vous voyez que déjà, la Turquie, Qatar, c'est presque 30 milliards. Presque 30 milliards. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Qatar? Qu'est-ce qu'il cherche en Turquie? Eh bien, je vous dirais que ce n'est pas évidemment des investissements industriels, mais il a une banque, donc un peu d'investissement financier, mais surtout l'immobilier. Très spéculatif, et même le fameux canal, je ne sais pas s'il va construire. Il paraît que la famille du prince, la mère, etc., de Qatar, ils ont raflé tous les, pas tous, mais un grand nombre de terrains qui jonchent le futur canal d'Istanbul. Bon, là, c'est significatif, c'est pas le Qatar qui nous importe, mais comment aussi la Turquie, dans les dernières années, commence en fait à se tourner vers d'autres intérêts que plutôt vers l'Europe. Alors, très rapidement, je vous laisse lire, mais je vais aussi vous aider. Quelles sont les conclusions qu'on peut tirer de cette comparaison brève? Bon, la taille de la Turquie effraie. Ça, on en a parlé. L'intégration de l'économie turque dans l'Europe constitue un ancrage critique pour la Turquie, mais certainement pas pour l'Europe. L'union douanière, alors là je vais un peu m'attarder là-dessus. L'union douanière, vous avez vu que ça n'avait pas encore très contribué d'une façon significative à la croissance de la Turquie. Évidemment, c'est important pour la Turquie, le marché européen. Mais l'union douanière, depuis dans les dernières années, mettons dans les 10-15 dernières années, est devenu de plus en plus aussi un problème pour la Turquie, pour la défense de son marché intérieur. Pourquoi c'est devenu un problème? Parce que l'Union européenne commença à signer des traités de libre-échange, des accords de libre-échange avec les autres pays en dehors de l'Union européenne. Il a signé avec le Mexique, ensuite avec beaucoup d'autres pays importants, par exemple la Corée du Sud, etc. La liste, j'avais la liste, mais la liste était tellement longue que j'ai mis ici les pays avec lesquels il n'a pas l'intention pour le moment de signer de traités d'échange libre. C'est la Russie, l'Iran, Cuba et le Venezuela. Bon, avec tout le monde presque, il aurait signé dans quelques années des traités de libre-échange. Alors pourquoi c'est un problème pour la Turquie? C'est parce que, d'après le traité de l'union douanière, dès que l'Union européenne signe un traité de libre-échange avec un pays tiers, ce pays, à travers l'Europe, il peut exporter sans douane ses produits manufacturiers en Turquie, mais la Turquie ne peut pas faire l'inverse. Donc, pour pouvoir le faire, il faut que la Turquie signe des traités d'échange libre avec ces pays tiers qui ont signé des traités avec l'Union européenne. Mais pourquoi ces pays vont signer avec la Turquie? Excusez-moi, ils s'en fichent. Ils sont en position de force. C'est la Turquie qui doit frapper leur porte et les prier de signer. Et c'est ce qui s'est passé, en fait, avec un certain nombre de pays. La Turquie n'a pas pu signer. Donc, la Turquie, pourquoi c'est important? Parce que la Turquie veut, depuis quelques années, non seulement élargir l'union douanière aux services et aux produits agricoles, ils n'étaient pas inclus en 1996, mais aussi avoir des nouvelles règles en ce qui concerne avec ces accords d'échange libre avec les pays tiers. Mais c'est toujours au point mort. Les négociations ont débuté, mais on n'a pas pu aller plus loin pour des raisons que vous imaginez, et je vais aussi en parler un petit peu. Cet état de fait, bien sûr, ça bon. Alors, nous reviendrons sur cette question plus loin. D'accord. Très rapidement, les défis économiques. Je sais que j'ai dépensé pas mal de mon temps de discours. Les défis économiques auxquels la Turquie fait face. Donc, je ne vais pas lire la liste. Tout de suite, je passe au graphique. D'abord, l'inflation. La Turquie n'a jamais eu la stabilité des prix au sens des pays développés, c'est-à-dire environ 2% d'inflation par an. Mais il avait réussi pendant 40 ans, il a eu une inflation à deux chiffres, depuis le milieu des années 70 jusqu'au milieu de l'année, des années 2000. Mais ce qui est important, c'est que dans les dernières années, l'inflation ne cesse d'augmenter et finalement, dernièrement, le taux a atteint presque 20%. C'est un grand problème. Je ne veux pas expliquer, donner plus d'explications. Je pense que vous savez pourquoi c'est important. Mais évidemment, il faut se poser la question, pourquoi ? Alors que c'était plus ou moins comme vous voyez, il y a en fait deux graphes d'inflation. Le rouge, c'est prix de production. C'est d'abord les prix de production augmentent et tirent vers la hausse les prix à la consommation. Et vous voyez, les dernières années, c'est terrible. Vous voyez comment augmentent les prix de production et bien sûr les prix à la consommation. Qu'est-ce qui s'est passé? Certaines choses se sont passées, il n'y a pas un seul facteur qui peut expliquer, mais le facteur le plus important, c'est la dépréciation du livre turc. Alors, sur ce graphique, il y a, comme vous voyez, le taux d'échange nominal euro-livre turc. On commence à peu près 3 liras, même pas 3 liras, et on est maintenant à 10 liras. Dans les années 2000, je venais aussi de temps en temps m'inviter à Paris. Je me souciais guère des prix à Paris, tout simplement quand je payais quelque chose, un repas ou un autre produit, et je faisais automatiquement le réflexe de changer en livre turc pour comparer les prix, mais ça ne me démoralisait pas. Et aujourd'hui, plutôt hier, j'ai fait des dépenses. Et d'abord, avec le même réflexe, j'ai changé en livre turc. Et après, je me suis dit, non, il ne faut jamais faire ça, parce que c'était absolument démoralisant. Donc, les coûts augmentent, quand le taux de change augmente, d'abord les prix de production augmentent, et finalement, les prix à la consommation augmentent aussi. Mais c'est pas fatidique, c'est pas un destin. On pouvait l'éviter. Alors, ce qui s'est passé, pourquoi le taux de change a augmenté, pourquoi le livre turc s'est autant déprécié dans les dernières années, parce que M. Erdogan a mis dans la tête que l'inflation, la cause de l'inflation, c'est le taux d'intérêt élevé. Donc, si vous baissez le taux d'intérêt, l'inflation va baisser aussi. Il a imposé ça à la Banque centrale. Est-ce que vous savez que dans les trois dernières années, M. Erdogan a changé trois gouverneurs de banque centrale? Donc, vous voyez le problème, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Il y a le quatrième, mais ces jours, à mon avis, sont comptés aussi, parce que le grand problème, le grand dilemme, c'est que d'un côté, si vous baissez les taux d'intérêt, le taux de change augmente, et l'inflation, au lieu de baisser, elle augmente. Et si le gouverneur de la Banque centrale suit cette politique, il est mis à la porte rapidement. Et l'autre aussi, il commence à faire baisser les taux d'intérêt. Alors, exactement, depuis une semaine, c'est ce qui se passe en Turquie. Enfin, bref, ça, c'est un grand problème. Il y a aussi ces devises, le taux de change peut augmenter, non pas à cause des flux de capitaux étrangers, mais le citoyen turc a le droit aussi d'avoir des comptes bancaires en euros ou en dollars. Vous voyez la dollarisation de la Turquie et vous pouvez en conclure le crédit accordé à la livre turque, à la fiabilité de la livre turque. Alors, j'en avais parlé un peu dans la première partie. L'un des problèmes structurels de la Turquie, de l'économie turque, c'est que le taux d'épargne est insuffisant pour financer, le taux d'épargne intérieur, bien sûr, est insuffisant pour financer les investissements, d'où le déficit extérieur. Alors, vous voyez, d'un côté rouge, le taux d'investissement, de l'autre côté, le taux d'épargne, sauf les crises. Pendant les crises, à ce moment-là, bien sûr, l'investissement baisse, donc l'épargne, plus ou moins, est équilibrée, mais ceci a une conclusion importante, c'est que l'économie turque a toujours besoin des flux de capitaux pour pouvoir combler cet écart entre le taux d'investissement et le taux d'épargne. Alors, tout à l'heure, j'ai donné mon exemple, enfin, mon expérience d'hier. Vous voyez, ça, c'est le taux de change réel. Vous savez, le taux de change réel, tout simplement, veut dire que... Bon, mettons en France, vous avez 2% d'inflation, 20% d'inflation en Turquie. Normalement, le taux de change, dans un an, en Turquie, le taux de change nominal doit augmenter de 18% pour garder le taux de change réel stable, inchangé. D'accord ? 2% d'inflation en France, 20% en Turquie, la différence 18%. Bon, je simplifie bien sûr. Et alors, si le taux de change réel, comme vous voyez ici, d'abord a énormément augmenté, a mis en danger la compétitivité des produits manufacturiers turcs, parce qu'il y avait un énorme flux de capitaux qui a déferlé sur l'économie turque, mais après, vous voyez, depuis 2010, d'abord très volatile, mais la tendance est absolument à la baisse et on est arrivé à incroyable à 60% en taux de change réel du taux de change réel de l'année 2003. C'est pourquoi j'étais effrayé hier quand j'ai commencé à payer le restaurant. Alors, si vous avez besoin des flux de capitaux pour financer votre déficit extérieur, vous avez deux moyens, essentiellement. Soit, puisque comme les États-Unis, vous ne pouvez pas imprimer des dollars, ou vous ne pouvez pas imprimer non plus des euros. Donc, soit il faut que l'investissement étranger soit en grand volume, de façon à combler sans s'endetter le déficit extérieur. Nous avons vu que l'investissement direct étranger est en train de baisser depuis des années. Alors, il reste évidemment l'endettement. Et ça, vous voyez ici l'endettement en devises, en euros et en dollars du secteur privé. Dans les deux, trois dernières années, ça s'est ralenti d'abord. Ensuite, ça a commencé à baisser doucement. Pourquoi ? C'est le fameux désendettement, parce que les firmes sont effrayées par la dépréciation du livre turc et à tout prix essayent de se désengager de cette dette très importante. Ça, pourquoi c'est important ? Et parce que ça va peser sur les investissements. Si ça pèse sur les investissements, ça va attirer vers le bas le taux de croissance économique. Et vous savez combien il est important pour la Turquie. Donc, du point de vue, je passe rapidement, une chose, les finances publiques sont, depuis de longues années, en Turquie, en accordance avec les critères de Maastricht. Moins de 3% de déficit budgétaire, sauf exceptionnellement en 2020, mais évidemment les déficits dans les autres pays européens sont devenus encore plus grands. Donc la Turquie n'est pas la Grèce. Pas du tout. Mais, déjà, la Grèce de 10 millions, vous voyez les headaches, les maux de tête que ça a causé à l'Europe. La Turquie, pour d'autres raisons, si jamais elle ne sort pas de cette, je dirais, de ce sentier de croissance basse, faible, aussi peut avoir, même si les finances publiques n'est pas aussi inquiétant. Bon, je passe ça. Qu'est-ce qui se passe ? Vous vous endettez, très rapidement, une minute. Si vous vous endettez, vous payez des taux d'intérêt. Et si les gens qui vous prêtent de l'argent, les grandes banques internationales, commencent à s'inquiéter de plus en plus que peut-être dans l'avenir, vous ne serez pas capable de payer vos dettes, alors il y a un marché, les risques de primes, CDS, Credit Default Swaps. Vous voyez, la Turquie est arrivée à plus ou moins à des taux de CDS assez bas, mais depuis, dans les dernières années, non seulement c'est devenu très volatile, mais c'est presque 4% de spread. Ça veut dire que si la Turquie, une firme turque ou le trésor turc obtient un crédit des marchés internationaux, mettons que le taux d'intérêt courant pour des pays sans risque, c'est 2%, la Turquie paye 6%. Donc, c'est absolument pas soutenable. Et le marché du travail, on en avait parlé, mais ici, on voit peut-être d'une façon plus. J'ai pris juste les dernières années. Alors, le nombre de chômeurs a augmenté. Après, pendant la pandémie, vous voyez, d'abord, l'emploi a fait une chute presque libre. C'est normal, c'était le printemps 2020, lorsque le Covid a frappé l'économie, le pays. Et après, il y a eu une reprise. On n'a pas encore compenser toutes les pertes d'emploi, mais quand même, il y a une reprise forte. Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez, le nombre de chômeurs aussi baisse alors que l'emploi baisse. Oui, Priscilla, mon amie, on avait fait les études d'économie ensemble, elle a fait un tic. en disant comment ça peut se faire, l'emploi baisse, le nombre de chômeurs baisse aussi. Bon, en fait, c'est arrivé à d'autres pays aussi, mais pas aussi frappant qu'en Turquie. Ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de gens désespérés, qui n'espéraient pas de trouver du travail, en fait, dans les conditions données, ils sont sortis du marché du travail. Ou si vous voulez, sortir du marché du travail, ça veut dire qu'ils ne cherchaient plus d'emploi. Si vous ne cherchez pas d'emploi, vous n'êtes pas considéré comme des chômeurs selon les critères de l'Organisation de travail internationale. C'est aussi simple que ça. Donc, pourquoi c'est important? En fait, les taux de chômage que je vous ai montrés tout à l'heure, bon, plus de 13%, maintenant c'est presque proche de 13%, ne reflètent pas la réalité, tout à fait. Le problème de chômage est encore plus grave en Turquie, parce qu'il y a un potentiel de chômeurs qui s'est constitué. Et c'est presque 3 millions. Et on le mesure aussi. Donc, à droite, sur le graphe de droite, vous voyez le taux de chômage. Les barres bleues, c'est le taux de chômage, disons, normal, standard. Donc, il descend à 13,4% au deuxième trimestre de 2020. C'est le paradoxe dont nous avons vu tout à l'heure. Il descend à 12,4%, mais en 2020, vous voyez, au deuxième trimestre, c'est-à-dire c'est le printemps 2020, le chômage au sens large, c'est presque 23%, alors qu'il était de 14,4% au deuxième trimestre 2015. Donc, le chômage est un problème encore plus inquiétant. Et finalement, je laisse regarder le graphique parce que le temps avance. Ce sont la dégradation des institutions en Turquie dans les dernières années. En fait, ça aussi, c'est très négatif, un effet très négatif sur la croissance. Bon, je n'entre pas dans les détails, mais Daron Acemoğlu, par exemple, a très bien, dans ses derniers livres, a montré pourquoi ces institutions sont très importantes pour une croissance de qualité. Bon, bref, regardez, tout en baisse. Et en particulier, en gris, c'est quoi? Political stability and absence of violence, terrorism, etc. Le bleu, regularity, quality, toutes les institutions économiques. J'ai parlé un petit peu de la Banque centrale. Il n'est plus question de l'indépendance de la Banque centrale en Turquie. C'est le président qui dicte directement la politique monétaire. Mais c'est le cas aussi pour les banques publiques. Il y a trois banques très importantes publiques. Et Erdogan peut ouvrir le téléphone et dire que vous baissez vos taux d'intérêt pour les ventes des logements à hypothèque. Et il l'a fait. Bon. Et Ahmet va en parler aussi, mais regardez, s'il vous plaît, ce dernier graphe, c'est la liberté d'expression, index de World Bank. Alors, j'ai mis le Brésil aussi, parce que depuis Bolsonaro, on s'inquiète beaucoup pour le Brésil, mais j'ai mis le Brésil parce que j'ai vu qu'en fait, il s'en sort mieux que la Turquie. Voilà la situation de la liberté d'expression en Turquie. Je crois que pas besoin de récapituler parce que on n'a pas le temps. Alors je vous laisse un peu regarder. Je répète ici, je reprends tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure à propos des problèmes économiques. Alors, juste la dernière phrase, je vais quand même la lire. L'économie turque risque de continuer à piétiner dans une croissance faible, insuffisante pour faire reculer le chômage élevé et la pauvreté. Et j'ai ajouté, à moins que le pouvoir change. Parce que, très franchement, ce pouvoir existe depuis 2003. En novembre 2002, il est arrivé au pouvoir. Donc 2003, c'est presque 18 ans. Et pendant ces 18 années, en tant que professeur d'économie, j'écrivais aussi des colonnes, etc., des commentaires à la télévision, etc. Et dans les premières années, il a bien géré. Évidemment, il manquait des choses, mais ce pouvoir a bien géré l'économie. Et quand je voyais ça, je disais que ça, c'est bien fait. Et pour ça aussi, dans mon quartier de gauche, j'étais assez critiqué et mal vu à cause de, parce que je disais ce qui me semblait juste. Mais depuis les dernières années, je trouve absolument rien. Et la preuve d'ailleurs, le ministre de l'économie de M. Erdogan pendant les premières années, Ali Babacan, d'abord il a été évidemment renvoyé par AKP, mais il a été tellement déçu et inquiet qu'il a créé un nouveau parti et combat maintenant le président Erdogan. Donc vraiment, les dernières années du point de vue gestion de l'économie ont été assez catastrophiques. Donc je trouve rien. Donc, rien de bon. Donc, cette insistance, à moins que le pouvoir change, parce que j'ai absolument aucun espoir dans le pouvoir actuel pour qu'il corrige ses erreurs en matière d'économie. Bref, le processus d'adhésion officiellement bloqué, pratiquement caduc. Alors, ici intervient un certain nombre de, bien sûr, facteurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vais pas lire tout parce qu'on n'a pas autant de temps. D'abord, les chapitres. Vous savez, négociation, c'est un euphémisme. Il n'y a pas de négociation. Tout simplement, le pays candidat essaye d'adopter l'acquis communautaire, c'est-à-dire toutes les lois, les règles, les normes européennes dans son juridiction. C'est tout. Et l'Europe regarde si c'est bien fait, si c'est satisfaisant ou pas. Voilà. Alors, mais dès le départ, d'abord en 2004, décembre 2004, il y avait déjà une grande opposition en Europe contre la candidature de la Turquie. Et pour surmonter cette opposition, il y a eu un compromis à Bruxelles. À la dernière minute, pour convaincre les opposants, les favorables, ils ont ajouté une phrase. Ils ont dit, la phrase est là aussi, ils ont dit que c'est bien, on va négocier, donc la Turquie va adopter l'acquis communautaire durant ce processus, mais à la fin, quand ce sera réussi, on ne garantit pas l'adhésion à la Turquie. C'est ouvert. Bon, c'est ouvert, qu'est-ce qui s'est passé après? D'abord, le Conseil a bloqué certains chapitres, je crois 8, parce que la Turquie a refusé de reconnaître le gouvernement de Chypre. Ensuite, les Chypriotes grecs ont rajouté, je crois, 6 autres. Et M. Sarkozy, évidemment, il fallait qu'il se mélange aussi dans cette affaire. Et lui aussi, il a ajouté, il a bloqué d'autres chapitres, lorsqu'il était président, bien sûr. Il a ajouté aussi d'autres chapitres et il s'est mis à faire la propagande de la Turquie. La Turquie ne peut jamais devenir un membre à part entière. On va lui offrir un partenariat privilégié. Si c'est comme on avait besoin des privilèges de M. Sarkozy. Bon. Alors, quelles alternatives on peut ? Je finis là-dessus. Bon, d'abord du côté turc, puisqu'on est arrivé, je pense que vous vous posez la question, mais pourquoi les ponts ne sont pas jetés? Pourquoi la Turquie n'a pas dit, surtout Erdogan, qui a bien reconvertir le musée de Sainte-Sophie en mosquée du jour au lendemain, pourquoi il n'a pas a dit « j'en ai assez et donc je refuse, je me tire de la candidature ». Mais il ne le fait pas parce qu'il sait très bien, j'ai essayé d'expliquer, que la Turquie économiquement a besoin de cet ancrage européen. Donc il ne veut pas jeter les ponts. Et qu'est-ce qu'il peut faire? Comment on continue? Il est impossible, on ne peut pas continuer. L'Europe dit clairement, j'ai fait des citations, le Conseil a dit que la Turquie s'est éloignée de l'Europe, s'est éloignée des critères de Copenhague, il n'est pas question de continuer les négociations. Il a dit même qu'il n'est pas question de continuer les négociations à propos de l'élargissement de l'union douanière. Et qu'est-ce que fait Erdogan? Il dit, chaque fois que le Parlement européen ou la Commission publie quelque chose en rappelant cette réalité, de fait, Erdogan et les autres, les ministres, ils disent, c'est nul et non avenu. Voilà, c'est tout ce qu'ils disent. Évidemment, c'est qu'ils ne veulent pas jeter les ponts. Parce que si je te réponds, il y aura des chocs adverses, des chocs négatifs en ce qui concerne le climat d'investissement, surtout étranger, en Turquie, etc. Et côté européen, et puis ils le disent tout ça, mais ils n'ont jamais pris l'initiative officiellement de dire que maintenant la Turquie n'est plus candidat à l'adhésion. Bon, le Parlement européen, il y a des motions de propositions, etc. Mais pour le moment, l'Europe aussi ne bouge pas. Pourquoi? Parce qu'elle aussi craint de jeter les ponts. Et là, son grand problème, c'est la menace des émigrés. Donc, à côté de Erdogan, à côté de l'élargissement de l'union douanière, il y a un deuxième projet très important pour M. Erdogan, c'est faire supprimer le visa de Schengen pour un certain nombre de citoyens turcs. Est-ce qu'il a raison? Absolument. Moi, j'ai un passeport vert parce que j'ai été fonctionnaire, haut fonctionnaire, etc., professeur, donc je suis dispensé de visa. Mais en plus, est-ce que économiquement ça a un sens? Non, ça c'est un privilège, tout simplement. Nous avons signé l'union douanière. Les marchandises industrielles manufacturières circulent librement des deux côtés. Les producteurs européens qui les produisent et les transporteurs européens qui les transportent sont absolument dispensés de visa. Ils peuvent entrer comme ils veulent en Turquie. Mais les producteurs turcs qui produisent ces produits envoyés en Europe et les chauffeurs, les transporteurs qui les transportent sont obligés d'avoir des visas, les visas Schengen. Et permettez-moi, ce n'est pas automatique, c'est très difficile. Donc c'est absolument injuste. Donc la Turquie a raison d'insister sur le fait qu'il faut que vous accordiez une suppression des visas pour au moins cette partie de la population. L'Europe, en fait, certains Européens, disons, certains dirigeants ne veulent pas. Mais surtout, la majorité craint que comment délimiter ce nombre de citoyens si jamais des dizaines et dizaines de millions de Turcs obtiennent le droit de circuler sans visa, qu'est-ce qui se passera, etc. Et ils ont raison, ils ont aussi un prétexte. Ils ont mis des conditions, la plupart techniques. La Turquie les a remplacées, les a respectées. Mais il restait une autre condition importante. Changez votre loi anti-terreur, anti-terroriste et mettez cette loi, appliquez dans cette loi les normes, les critères européens. Pourquoi? C'est parce que la loi anti-terreur en Turquie est tellement large et imprécise que même si vous vous dites, par exemple, que, je ne sais pas, les Kurdes, le mouvement kurde au fond, a raison aussi de discuter l'autonomie ou la fédération, vous pouvez vous trouver en tôle. Parce qu'ils disent que c'est, en fait, c'est la propagande terroriste. Bon. Dans aucun pays européen, on vous mettrait en prison parce que vous avez dit que, je ne sais pas, telle organisation terroriste aussi, on peut discuter quand même sur ses motivations, etc. Mais enfin, bref, l'Europe a raison sur ça. Et qu'est-ce que répond M. Erdogan, le pouvoir à AKP? Il dit que, mais écoutez, mes amis, nos amis européens, accordez-nous une indulgence, une tolérance. Nous avons des conditions exceptionnelles. Donc, fermez les yeux là-dessus. N'insistez pas sur ça. Nous, on ne peut pas changer notre loi. Donc, ça aussi, c'est bloqué. Alors, tous ces blocages, pour pouvoir les surmonter, il vaut bien que les choses changent en Turquie. Et dans quel sens vont changer ? D'abord, du côté européen, j'avais mis... je crois qu'Etam, on peut consulter cette présentation, on peut... Non, sera diffusée. D'accord, c'est pourquoi je voudrais terminer. Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir ? On peut bien sûr continuer à débattre pendant la discussion générale. J'ai eu l'idée, parce que j'ai trouvé dans Deutsche Welle des résumés des partis allemands, c'était juste avant les élections de dimanche, des partis allemands dans leur programme électoral, ce qu'ils disent vis-à-vis de la Turquie. Donc j'avais pris ici les partis de la nouvelle coalition, les sociaux-démocrates, les Verts et les libéraux. C'était intéressant. En fait, du côté européen, évidemment, le fait que le gouvernement allemand a changé et que les portes seront ouvertes devant la Turquie, non, je ne dis pas ça. Mais quand même, il y a maintenant une petite opportunité, une porte relativement ouverte, étant donné les opinions de ces trois partis à propos de la Turquie, de l'adhésion de la Turquie. Reste, côté turc, les élections prochaines. Est-ce que le pouvoir va changer? Ça aussi, peut-être on va en parler. Mais c'est indispensable. Si jamais ça n'arrive pas, d'abord, si ça arrive, ça ne garantit pas que les choses tout de suite vont se régler avec l'Europe, etc. Mais quand même, on aura une chance, un espoir pour avoir des meilleurs, pour un tandem qui roule au moins un peu plus harmonieusement. D'accord, merci.
Nous avons dépassé le temps prévu par le programme. Vu le contexte économique et politique qui a déjà été évoqué, je pense que nous pouvons discuter de ces questions dans l'après-midi, peut-être à la suite de la contribution d'Ahmet İnsel, puisqu'il va nous parler d'un des problèmes majeurs de cette question économique et de l'adhésion, qui est le problème politique et idéologique. Donc, si vous voulez bien, je vais vous donner rendez-vous pour 2 heures, comme prévu, pour reprendre. Nous aurons donc l'intervention d'Ahmet İnsel. Ensuite, nous aurons un petit battement d'une dizaine de minutes pour les réglages, puisque vous vous souviendrez que Orhan Pamuk va s'adresser à nous via Zoom. Il faudra donc quelques réglages. Je pense qu'on pourra se connecter avec New York à 15h10. Et ensuite, après la présentation d'Orhan Pamuk, nous passerons au débat final, ce qui sera une occasion de revenir sur certaines des questions qui ont déjà été évoquées. Je vous remercie et à cet après-midi.